Et vous êtes à l'écoute de votre station numérique par excellence, fidèleauposte.com. Et voici maintenant votre émission Voyage-Voyage avec votre animateur André Bouchard. Bienvenue sur votre site internet fidèleauposte.com pour votre émission Voyage-Voyage. Ici votre animateur André Bouchard. Et voici les sujets qui nous a fait plaisir de sélectionner pour cette semaine. Eh bien, d'abord, au 40e festival de la chanson de Tadoussac avec Myriam Sénécal. Également, le premier festival de court-métrage à la Petite Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc. Ensuite, au 60e anniversaire du Conservatoire de Trois-Rivières avec Marc Hervieux et ses acolytes, aussi un beau voyage littéraire avec l'écrivaine bien connue Louise Lacourcière et son nouveau roman Sur ma route. Également, Les voix s'élèvent, un voyage littéraire avec l'écrivain Joël Bégin, et nous compléterons avec la nouvelle liaison Bogota-Montréal-Trudeau en compagnie de M. l'ambassadeur Carlos Morales. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite bonne écoute, chers internautes, sur votre site internet fidèleauposte.com pour votre émission Voyage, Voyage. Et maintenant, du côté de la Côte-Nord, plus précisément au 40e festival de la chanson de Tadoussac, en compagnie de Myriam Sénéchal, qui est directrice générale de ce bel événement à la fois touristique, artistique et culturel, qui va nous en parler quelque peu et que j'ai le plaisir de saluer. Alors bonjour, Myriam Sénéchal.
Bonjour André, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi-même?
Oui, très bien, merci de me recevoir.
Ça me fait plaisir d'ailleurs. D'ailleurs, parler de Tadoussac pour les régions, les auditeurs qui seraient moins au courant, à quel endroit c'est situé là? À quel endroit c'est situé Tadoussac?
Donc, Tadoussac, c'est l'entrée de la côte nord. C'est vraiment au tout début, après Charlevoix, on prend un traversier à Baie-Sainte-Catherine, puis c'est une traversée gratuite de 20 minutes pour arriver dans le village pittoresque de Tadoussac. Ah ben, c'est un petit village de 750 habitants qui accueille là, pendant le week-end du 13 au 16 juin 2024, qui accueillera des milliers de festivaliers et festivalières.
Justement, alors parlez-nous de ce beau... Alors, comment ça a débuté, ça, ce festival, quand même, qui date de 40 ans déjà?
Oui, tout à fait. En fait, les 40 ans cette année, donc à la base, il y a 40 ans, ça a commencé par un jam, donc des musiciens du village qui se sont mis à jouer de la musique, qui se sont dit, ben pourquoi pas faire un festival? Puis, de fil en aiguille, ça a grandi en notoriété, puis c'est devenu un incontournable dans le monde des festivals au Québec.
Alors, c'est presque un événement international.
Oui, tout à fait. Il y a de la notoriété jusqu'à l'international. On accueille aussi des artistes internationaux à chaque année. Ce qui distingue là, vraiment Tadoussac des autres festivals, c'est le côté intime. C'est des petites jauges, des petites salles, beaucoup de salles aussi de scènes en extérieur. Donc, on peut vraiment combiner nature et culture. Là. On a une scène sur la plage, par exemple, à Tadoussac. Des scènes sur les rochers près du fjord. Donc, c'est vraiment une expérience.
Alors, parlez-nous justement, élaborer un petit peu plus de la programmation. Qu'est-ce que vous avez concocté pour les amateurs du genre?
Oui, bien, on est vraiment fiers de notre programmation cette année. On est une nouvelle équipe, moi, en tant que directrice générale, puis une nouvelle aussi, Anne-Christine Guy, à la programmation. Le festival, c'est vraiment un focus sur l'émergence. On priorise la chanson francophone. Et on a aussi plusieurs noms mieux établis. Mais c'est vraiment un festival aussi de découverte. Donc, on a plusieurs artistes émergents qui feront fureur là, dans les prochaines années. Je pense à Rose, Alphonse Dutraillon, DVTR. On a une programmation très accessible pour tout le monde. Donc, on en a pour tous les goûts. Tous les genres, comme je disais, il y a plusieurs scènes aussi, donc il y a plusieurs types de scènes, des scènes plus d'écoute, assis, des scènes dehors, debout, des shows qui commencent le matin jusqu'à tard le soir, c'est vraiment pour tous les goûts.
Myriam, tu parles des artistes émergents, est-ce qu'il y aura également des artistes bien connus qui vont se présenter?
Ah oui, certainement, on a par exemple Elisati de la partie qu'on a déjà annoncée. Et on a aussi Marjo, Gab Paquette, Philippe Braque, Billy Vaux, donc des artistes plus établis là, qui vont venir performer sur nos scènes, là, mais toujours dans un mode assez intime, très convivial, très chaleureux.
Alors, on peut dire qu'il y en a pour tous les goûts à ce festival. Est-ce que la famille, pour les gens plus âgés ou toutes les catégories d'âge?
Ah oui, tout à fait. Là, je dirais que le public cible est très, très large. On a des prix avantageux pour les 17 ans et moins, donc des prix spéciaux pour toute la famille. Puis, c'est comme je vous disais, le festival a 40 ans, mais ça fait plus de 40, ben, ça fait 40 ans aussi qu'il y a des festivaliers et des festivalières qui suivent le festival. Fait qu'on a vraiment toutes sortes de gens.
Est-ce qu'un événement spécial à l'occasion du 40e anniversaire?
Mais c'est sûr que c'est un événement anniversaire. Le cœur est à la fête. On est là pour souligner là, les 40 ans qui ont créé ce festival-là. Donc, il y aura plusieurs surprises qu'on garde encore pour l'instant. Mais c'est sûr que c'est un anniversaire. On va se sentir festif.
J'avais une invitation à faire à nos internautes, auditeurs de radio, pour les convaincre justement d'assister à ce bel événement vraiment spécial. Qu'est-ce que vous diriez?
Tadoussac, c'est un endroit à découvrir si ce n'est pas déjà fait. C'est un village tout à fait charmant. Puis, ce qui est spécial au festival, comme je le mentionnais, c'est vraiment le côté convivial et intime. Donc, tout le village se transforme en festival. Les publics se côtoient, les gens, les artistes, les pros, les médias, tout le monde est ensemble dans cette grande fête-là. qui met à l'honneur la découverte, la nature, la culture. Donc, c'est vraiment un charmant festival à découvrir.
Intéressant. Alors, plus de renseignements concernant justement ce 40e festival de la chanson de Tadoussac, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, vous pouvez vous rendre sur notre site internet chansontadoussac.com ou sur nos réseaux sociaux, le Festival de la chanson de Tadoussac, il y aura toutes les informations.
Alors, Myriam Sénéca-Chal, directrice générale de ce 40e festival de la chanson de Tadoussac, merci beaucoup. À la prochaine.
Merci beaucoup, au plaisir de vous y voir.
Maintenant, une belle visite à la place, petite place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie, en compagnie de deux personnalités qui s'occupent justement d'un festival intéressant, le Festival du court-métrage qui va se dérouler prochainement. Alors, en l'occurrence, j'accueille Roger Yariepi, qui est le directeur artistique, et Yves Saint-Pierre, qui est l'adjoint à la direction et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, messieurs.
Bonjour.
Alors, on va aller avec monsieur d'abord Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre, comment ça va la petite place des Arts?
Ça va bien, c'est le printemps, on a une toute nouvelle exposition qui vient d'ouvrir, et puis on a ce nouveau projet-là de festival de court-métrage qui va commencer à la fin mai, en fait 3 jours, un week-end, fin mai, début juin. Fait que ça, on est très excités parce que c'est la première cette année.
Sans compter les belles expositions que vous présentez tout au cours de l'année.
Exactement, donc ça se poursuit dans notre salle principale qui est la salle des Jardins, dans le café Les Funambules, et cet été dans la salle au deuxième étage de la Petite Place des Arts.
Et justement, M. Gariepi, M. Saint-Pierre viennent de me parler justement de ce festival du court-métrage dont vous êtes le directeur artistique. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour cette édition?
Alors, il faut s'attendre à une très belle programmation internationale. Il y aura des films du Québec, du Canada et de partout dans le monde.
Est-ce qu'on peut avoir un aperçu, justement, des courts-métrages qui vont être présentés pour l'occasion?
Ben, un aperçu, non. Il va falloir venir sur place, parce que les courts-métrages, ce sont des secrets bien gardés. Mais nous avons la chance de collaboré avec le festival Regard, qui est à Chicoutimi, ce qui est un festival international, et on va puiser dans la banque des films de Regard. Alors, chez Regard, ils ont tout ce qui se fait de mieux dans le monde. Alors, on aura la crème de la crème à Saint-Mathieu.
Et qu'est-ce qui vous a amené, M. Gariépy, à mettre Saint-Pierre, à mettre sur pied un tel festival?
Bien, nous, ici, à la Petite Place des Arts, ce qu'on a envie, c'est d'offrir au public, à la population, une diversité de pratiques déjà en art visuel. On s'est dit, pourquoi pas aller chercher cette expertise-là? Roger habite à Saint-Élie-de-Caxton, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en cinéma. On a les équipements pour, on a la salle. Alors, on travaille ensemble pour amener notre population et nos visiteurs à voir autre chose et à voir les choses différemment. Et puis, c'est vraiment une belle opportunité, ça, de toucher à cet art-là, le septième art, l'art cinématographique, mais aussi dans ce format-là de court-métrage qui est très accessible quand on est là, mais c'est dur. Quand il n'y a pas de festival, d'aller trouver les courts-métrages, c'est plus difficile. Fait que c'est vraiment une opportunité, un week-end dance où on va pouvoir voir de tout qui vient de partout. Fait que c'est génial d'avoir ça ici.
Est-ce qu'il s'agit de la première édition, M. Gariépy?
Oui, alors on espère que les gens seront là nombreux afin qu'on puisse en faire d'autres.
Alors, ça se déroule à quelle date exactement?
Oui, alors ce sera un festival printanier le 31 mai, le 1er et 2 juin. C'est un week-end.
Alors, M. Saint-Pierre, ça vient une invitation à faire à nos internautes ou auditeurs de radio pour les convaincre justement à visiter votre belle petite place des arts d'abord et également ce court-métrage. Qu'est-ce que vous diriez?
Bien, je dirais qu'il y a toujours, des surprises à la petite place des arts. On reste un village forestier au bout d'un chemin, mais c'est étonnant ce qu'on peut retrouver dans ce lieu magnifique. On a des artistes qui viennent de partout. Puis c'est la chance de profiter et de la nature qui nous entoure, et du bâtiment exceptionnel, et de la qualité des arts qui y sont présentés.
Et pour plus d'informations, qu'est-ce qu'on doit faire?
La programmation va sortir bientôt. On va sur notre site web, lapetiteplacedesarts.ca. On travaille sur les dépliants, la sortie, il va y avoir un lancement très bientôt. Donc, on s'attend là début avril, mi-avril, à avoir beaucoup plus d'informations, mais il faut juste s'inscrire à notre infolettre sur lapetiteplacedesarts.ca, puis on va avoir tout ça.
Alors, on prend ça en note. Alors, merci beaucoup pour tous ces renseignements, M. Saint-Pierre et Gariépy. Et on vous dit bon succès dans ce beau petit projet, première édition. Et on vous dit à la prochaine.
Merci.
Merci, au revoir.
Maintenant, un beau voyage musical au Conservatoire de Trois-Rivières, en compagnie de grands chanteurs d'opéra, en l'occurrence M. Marc Hervieux, ainsi que Ève, qui est une grande chanteuse, la directrice également du Conservatoire, et M. Lépine, qui est un grand chef d'orchestre et violoncelliste, que j'ai le plaisir de saluer d'ailleurs. Alors, M. Hervieux, qui est directeur général des conservatoires du Québec. Alors, pour vous, là, le conservatoire, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand voyage musical, en quelque sorte?
Ah, oh, en quelque sorte. En fait, vous savez, moi, j'ai été formé au conservatoire. Donc, c'est par là que je suis arrivé dans le monde de la musique. Et puis, c'est là que j'ai eu la chance de vraiment faire ce premier voyage, c'est-à-dire le voyage de l'apprentissage. Et puis, après ça, ben partir, puis aller faire pas mal d'affaires, puis de revenir maintenant, puis d'être le directeur général autant des conservatoires de musique que des conservatoires de la dramatique du Québec. C'est un grand privilège pour moi, puis c'est vraiment une chance d'être à cette étape-là où on redonne plus que d'autres choses, puis c'est parfait comme ça.
D'ailleurs, vous avez voyagé beaucoup à travers le monde, alors y a-t-il une place qui vous a marqué particulièrement en tant que chanteur peut-être ou en tant que touriste aussi?
La salle Thompson à Trois-Rivières est magnifique, ça c'est vrai. Puis le Québec, je vais vous dire le Québec en premier. Vous savez quoi? C'est très, très, c'est beau. Je suis chanceux, là, je pourrais faire toute une liste de name-dropping, là, de belles salles, puis de grands orchestres, puis de chefs d'orchestre. Mais l'endroit là qui nous fait le plus plaisir, puis qui nous énerve le plus, puis l'endroit où on veut impressionner le plus, c'est chez soi.
C'est d'ailleurs, Trois-Rivières, c'est trois fois Vienne, trifluvienne.
Ben oui, ben en tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à Trois-Rivières. Je suis souvent chanté dans cette magnifique salle, la salle Antonio Thompson, puis dans d'autres endroits aussi à Trois-Rivières, avec l'orchestre de Trois-Rivières. Et puis, j'ai assisté au concert aussi l'année passée de l'orchestre ici du Conservatoire. J'avais eu un concert magnifique. Alors, encore une fois, c'est un privilège d'être là.
Et parle à Madame la directrice également. Ève, comment je sais que vous fêtez un anniversaire? De quoi s'agit-il?
En fait, ça fait 60 ans que le Conservatoire de musique de Trois-Rivières existe. C'est le premier conservatoire de région après Montréal et Québec. En fait, Trois-Rivières a été fondé il y a 60 ans exactement. En fait, hier, le 1er avril, ça fait 60 ans, en même temps que celui de Val-d'Or qui fête.
Et qu'est-ce que le fait marquant ici au Conservatoire de Trois-Rivières? Est-ce qu'un moment qui vous a marqué particulièrement?
Ben, toutes les années dans un conservatoire sont marquantes. Parce que ce sont des élèves différents qui passent, donc c'est marquant pour tous ces élèves. Puis je dirais que dernièrement, le conservatoire est vraiment dans une belle lancée. Puis on a un orchestre qui est tout à fait en santé et qui accueille aussi des gens de la communauté, ce qui est quand même une particularité ici à Trois-Rivières.
Vous avez une bonne renommée aussi à Trois-Rivières, si je me trompe pas.
Ah, bien sûr, j'en suis sûre, oui.
Mes deux filles ont étudié d'ailleurs ici.
Ah, ben voilà.
Ah, ben là. Enfin, un petit peu.
C'est là l'élément marquant.
Sébastien les a bien connus. Alors, Sébastien, vous savez que vous avez présenté, vous présentez une pièce spéciale, du moins un thème America. C'est quoi ce thème? Ça veut dire quoi?
Ben, d'abord, c'est les compositeurs qui viennent de l'Amérique. C'est une musique qui est proche de nous. Un Barber, c'est une musique très actuelle avec une harmonie qui est de notre temps, très très romantique. C'est sûr l'opéra Nelligan, hein, qui est du compositeur André Gagnon, c'est une pièce très par Nelligan, qui est le poète québécois, mais personnellement, moi, c'est une des pièces qui, dans ma tendre enfance, Les Beaux Dimanches, hein, c'était l'émission qu'on écoutait. Et c'est une des premières œuvres que j'ai entendues d'orchestre symphonique, puis ça m'a vraiment marqué. J'ai eu envie de faire de la musique, j'ai eu envie de composer à partir de ce moment-là. Puis de pouvoir faire ça, c'est vraiment touchant.
Je demandais à M. Hervieux qu'est-ce qu'il pense justement d'interpréter avec la co-directrice, avec ces pièces musicales.
C'est un plaisir. C'est comme un petit challenge qu'on s'était fait l'année passée, justement, au concert de l'orchestre. On s'était dit que ça serait le fun de faire quelque chose, puis de participer. Puis on s'était challengé là-dessus. On s'était dit, hey, Ève aussi, il faudrait que tu chantes. Puis, alors, donc, c'est ce plaisir-là qu'on s'est promis l'année passée, puis qu'on fait, finalement. On tient tient notre parole, là, nous autres. Là.
Oui, ça, d'ailleurs. Oui, madame la directrice.
Alors, on tient notre parole. On est deux diplômés du conservatoire. Ouais. Et là, on se dit, faut qu'on redonne.
Exactement. En fait, la musique, là, c'est ça qui est extraordinaire. C'est il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de rang. Tout le monde est égal. Tout le monde est là pour servir la musique. Puis, c'est ce qui fait que le succès est si grand à Trois-Rivières avec tout ça, toute la communauté qui participe à ça, tous les, tu sais, des professeurs, des directeurs, des élèves, tout le monde est sur le même pied, tout le monde est là pour faire avancer la cause.
Madame la directrice, on va plus de renseignements concernant le conservatoire de Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Bien, on peut venir nous dire bonjour, 587 rue Radisson à Trois-Rivières. On est toujours là, on est accueillant. Mais sinon, le site Internet, bien entendu.
Avec grand plaisir, à la prochaine. Merci de cette entrevue, vous trois. Puis on vous souhaite d'excellents concerts également tout au cours de l'année. À la prochaine.
Merci.
Le 36e salon du livre de Trois-Rivières et, à cette occasion, la grande écrivaine de la Mauricie, de réputation internationale, procédait à son plus récent ouvrage, Louise Lacourcière, et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour Louise.
Bonjour André.
Louise, quand on parle de ta carrière, parce que je sais que tu as une réputation internationale maintenant, tu as gagné beaucoup de prix d'ailleurs, alors comment ça a débuté cette carrière?
Bien, ma première publication a eu lieu il y a 25 ans cette année, et ça a été Anne Spielman, le procès, cette première publication-là, qui était basée sur la vie celle qu'on a connue sous le nom de Madame McCormick, qui est une New-Yorkaise de la haute société, mais qui venait, elle disait, tuner son âme en Haute-Mauricie. Alors, j'ai été inspirée par le fait que mon beau-père a acheté un temps dans la forêt qui lui avait déjà appartenu. Et là, plein de gens m'ont parlé d'elle, ce qui m'a amenée à faire des recherches dans 40 tomes de recherche, 15 États des États-Unis, 4 pays, et à consulter 120 personnes pour reconstituer son histoire. Ce fut un moment fabuleux qui a duré 12 ans, recherche et rédaction des trois tomes sur Anne Spielman, qui totalise 1500 pages, André.
Je sais que ce fut un grand succès, Louise. Et quand on parle de tes ouvrages, rapidement, comment tu as écrit d'ouvrages?
En fait, j'ai écrit 14 volumes, dont un pour enfants, surtout au niveau du roman historique, mais j'ai quand même fait roman contemporain et biographie aussi dans ces 14 livres-là. Et un pour enfants, un merveilleux livre pour enfants qui s'appelle Bilouka chez les castors.
Alors, c'est pas mal prolifique. Et voilà que tu as commis un autre ouvrage récemment, Sur ma route. Alors, de quoi s'agit-il, Louise?
Il s'agit de... En fait, c'est un récit de vie que j'ai maquillé en roman. Maquillé en roman en changeant les noms, mais en conservant un contact constant avec mon héroïne que j'ai connue au Costa Rica. Alors, je l'ai connue autour de... des années 2015, elle avait un restaurant à Playa del Coco, une crêperie. Et lorsque je l'ai rencontrée, André, je croyais que c'était une psychologue. Elle parlait de ses clients, des consultations qu'elle avait faites et tout ça. Mais j'ai appris en l'interrogeant. En fait, beaucoup de gens disaient « Ah, Emmanuel, tu devrais écrire ta vie. » Mais Emmanuel était bien trop occupé. Et moi, je n'avais pas le temps à ce moment-là parce que j'étais à rédiger les derniers tomes dans l'univers de la Saline. Alors, ce que j'ai fait, pour ne pas que cette histoire-là se perde, je l'ai interviewée. J'écrivais le matin et j'allais l'interviewer l'après-midi. Et là, j'ai constitué, si tu veux, plusieurs heures d'entrevue qui ont été transcrites, qui nous ont donné 75 pages de transcription d'entrevue. Et là, je dis à Emmanuel, là, il faut que tu trouves quelqu'un pour écrire ton histoire, c'est trop extraordinaire. Quelques années plus tard, lorsque je l'ai rencontré, je dis, puis, où en es-tu rendu? Mais je pense qu'André, elle m'attendait.
Intéressant.
J'ai rédigé cette histoire, je l'ai terminée exactement en juillet. Écoute, à la dernière page du livre, j'ai écrit, Trois-Rivières, écoute bien ça, Trois-Rivières, 13 juillet 2022, 12h02. Alors, on a vraiment le moment très précis où la rédaction a été terminée. Mais tu sais que quand on rédige un livre, il y a une suite. Il y a les moments de lecture du manuscrit. Moi, j'ai 10 lecteurs de manuscrit. Ensuite, j'intègre leur correction. Et ensuite, je présente mon manuscrit à mon éditrice.
Alors...
Et il devait être publié à l'automne dernier. Mais finalement, on a pris une décision commune pour que ce soit au printemps parce que c'est une magnifique lecture d'été, André.
Elle n'a pas douté. Alors, c'est très intéressant. Est-ce que ça veut dire que tu as d'autres projets en vue éventuellement, Louise?
Oui, André, j'ai d'autres projets en vue, mais à ce niveau-là, il va falloir se reparler. Je ne peux pas en parler maintenant.
Alors, on garde ça secret pour le moment.
Oui. Est-ce qu'on a le temps de donner juste une appréciation qui me semble résumer toutes les appréciations que j'ai des lecteurs présentement?
Avec plaisir. Avec plaisir, Louise, vas-y.
D'accord. Alors, c'est une personne qui est liée de très près à une émission littéraire qui m'a dit « J'ai beaucoup aimé Sur ma route, du début à la fin. J'ai trouvé que même s'il s'agissait d'une histoire faite de blessures, de difficultés, d'abus et de violence, le plus important, c'est qu'il s'agit d'une histoire ouverte sur la beauté, André. Beauté extérieure par les voyages que l'on fait et intérieure par le chemin parcouru par Emmanuel. Et au final, et c'est ça que je voudrais que tu retiennes, André, une histoire qui fait du bien. »
Alors, on le retient avec grand plaisir, Louise. Et je sais que, comme que tu viens de le laisser sous-entendre, que tu as des projets. Et si on veut plus de renseignements à ton sujet et se procurer tes magnifiques volumes, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ah ben, je pense que les volumes sont dans à peu près toutes les librairies au Québec. On peut aussi les commander par en consultant votre librairie. Si vous ne pouvez vous y rendre, vous pouvez leur téléphoner et ils vont vous commander votre volume. Et pour... en librairie présentement, je peux dire dans 90% des librairies au Québec.
Et pour plus d'informations à ton sujet, qu'est-ce qu'on doit faire?
Allez sur mon site internet louiselacourcière.com. Vous avez là beaucoup de détails, biographie, les prix, les reconnaissances et les publications. Puis en plus, dans l'onglet « Contact », vous pouvez me joindre par courriel. Il y a une adresse courriel, là.
Alors, Louise Lacourcière, grande écrivaine, romancière, biographe et spécialiste dans les sagas historiques, merci beaucoup de ce... On pourrait dire la sœur du grand historien Jacques Lacourcière également.
Et mon parrain aussi, André.
Ah, double carte.
Oui.
Alors, merci beaucoup, Louise, puis on te souhaite de produire d'autres magnifiques volumes comme tu l'as fait et si prolifique encore. À la prochaine.
À la prochaine. Merci beaucoup.
Et là-dessus,
une pièce musicale.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah.
C'est un grand plaisir maintenant de rencontrer un grand écrivain, en quelque sorte, qui a remporté un grand prix à l'occasion du Salon du livre qui se déroulait récemment, en l'occurrence, Joël Bégin, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue et que j'ai le plaisir de saluer. Bonjour, Joël Bégin.
Bonjour.
Joël, vous avez remporté un grand prix à l'occasion du Salon du livre de Trois-Rivières qui se déroulait. Alors, de quoi s'agit-il?
C'est un roman qui part de la mort de Maurice Duplessis en 1959 à Schefferville et qui se questionne un peu sur les causes de cette mort-là. Alors, je me mets à inventer une enquête policière pour tenter de découvrir les véritables circonstances de la mort de Duplessis, mais ça va un peu dans toutes les directions.
Et pour quelle raison avez-vous écrit ce livre, Duplessis?
Ça a été une recherche littéraire, en fait. J'avais pas de plan précis à la base. Je me suis intéressé au fait que Maurice Duplessis soit mort à Schefferville, qui était une ville nouvellement fondée dans le nord du Québec, puis j'étais vraiment étonné qu'il soit mort là, et à force de réfléchir puis de me questionner sur les causes de cette possible mort dans un lieu reculé comme ça, qui appartient à une minière, etc. Donc il y avait toutes sortes, c'était un beau ferment pour faire des théories du complot puis imaginer une trame narrative.
Avant d'aller plus loin, Schefferville, comme on disait, c'est une ville un peu spéciale, et le temps, le fait qu'il soit décédé à cet endroit vous intrigue évidemment.
Exactement. C'est une ville qui est desservie seulement par le train à l'époque, qui a à peu près 5000 habitants, qui travaille à peu près exclusivement pour une mine, donc il y a vraiment quelque chose de très, très littéraire là-dedans. Puis la vie de Duplessis, à force de lire sur ses biographies, c'est une vie très littéraire aussi, donc c'est un personnage à part entière.
Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus sur Duplessis?
C'est une bonne question. Hein. On commence à être un peu éloigné de cette politique-là, mais c'est une figure très marquante du Québec et qui est vue dans une lumière très, très négative. Puis je pense que pour plein de bonnes raisons, ça l'est. Mais à force de lire, quand même, on comprend un peu ses raisons, pourquoi est-ce que les politiques de l'époque ressemblaient à ceci. Ça n'excuse rien, mais... C'est ça, ça l'a rendu très humain, à mes yeux, de travailler sur Duplessis.
Parce que Duplessis, évidemment, a eu une certaine envergure à son époque. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on le comprend davantage? Parce qu'il me semble que c'est un politicien qui n'est pas plus ou moins compris.
Ben, je pense qu'il est très simplifié. Donc, est-ce qu'on le comprend? En fait, on le met dans un grand schéma historique. Puis au Québec, ben, il y a la grande noirceur qui se termine avec la Révolution tranquille, l'arrivée des libéraux au pouvoir. Mais c'est une histoire, ça, qui est quasi occidentale. C'est-à-dire que dans les mêmes années, un peu partout, les sociétés se démocratisent, l'État-providence se construit, etc. Donc, c'est vraiment pas propre au Québec. Alors, oui, on a tendance peut-être à mettre Duplessis dans une boîte noire, puis de mieux le comprendre, d'aller lire sur lui, sur la politique du Québec. Je pense que ça, c'est juste, profitable pour les citoyens.
Et le fait que vous avez remporté ce grand prix au Salon de Trois-Rivières, quelle est votre impression?
Ah ben c'est une grande joie et c'est un grand étonnement aussi parce que c'est ça, moi ce livre-là, c'est un livre qui vient du cœur, qui est un projet qui visait pas à plaire à quiconque, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, qui est un peu fou au final, mais qui finalement rejoint des lecteurs, des lectrices, puis qui semble aimer, donc c'est vraiment, pour moi, c'est très heureux de rencontrer ce prix-là.
Vous avez une invitation à faire à nos auditeurs ou internet pour vous procurer ce livre, de quelle manière et quel est le message que vous lancez dans les circonstances?
Ben, toutes les bonnes librairies ont le livre Plessis disponible. Et puis le message, ce serait de vous amuser avec l'histoire parce que j'ai tramé la fiction et la réalité ensemble. Donc le but, c'est pas de démêler ce qui est vrai et ce qui est faux, mais plutôt d'accepter la proposition telle qu'elle est, je pense, pour
donc,
s'amuser.
On peut dire que c'est un double volet, en quelque sorte.
Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de faits réels, puis il y a beaucoup, beaucoup d'inventions, donc amusez-vous, ce serait mon mot d'ordre.
Alors, c'est intéressant. Alors, aux éditions?
VLB.
Alors, on peut se procurer dans les prochaines, la plupart des librairies, j'imagine.
Il est disponible sur Amazon, dans les librairies indépendantes, dans les librairies, les chaînes, etc. Il est partout.
Joël Bégin, merci beaucoup et félicitations pour cette belle réussite d'avoir gagné ce grand prix. Et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci.
Et là-dessus, une pièce musicale. Alors, c'est un grand plaisir de rencontrer M. l'ambassadeur Morales, qui représente la Colombie, comme on le sait, depuis quelques années, et qui va nous parler justement d'un bel événement qui s'est déroulé récemment. Alors, M. l'ambassadeur, qu'est-ce que vous annoncez aujourd'hui?
Je suis très heureux d'annoncer que la aérolignée Avianca, la compagnie de la Colombie, a inauguré les premiers vols Bogota-Montréal aujourd'hui. Et c'est une occasion importante pour le renforcement de la relation entre Canada et la Colombie.
Et qu'est-ce qui vous a amené justement à mettre sur pied cette relation, cette nouvelle ligne en quelque sorte?
Cette relation, je crois que c'est très importante parce que non seulement c'est la relation entre les pays, mais c'est la relation entre les peuples. Il y a beaucoup de Colombiens qui est à Québec, particulièrement, spécialement à Montréal. Et chaque année, les Canadiens volent à la Colombie. C'était une facilité, les premiers vols de la Avianca, parce que nous espérons que beaucoup de Canadiens peut aller à notre pays.
Et quand on parle justement de la Colombie du côté touristique, je crois que c'est une grande destination. On dit que c'est le pays de la beauté. Est-ce que c'est vrai?
Oui, d'accord. La Colombie, c'est le pays de la beauté. Nous avons beaucoup et plusieurs des places de visiter et aussi les big cités pour les connaissances des publics canadiens.
Et est-ce que les Canadiens, justement, vont de plus en plus en Colombie?
C'est vrai. Nous espérons que chaque année, les Canadiens peuvent aller à la Colombie.
Et quand on parle justement de cette nouvelle liaison, quand c'est possible de voyager maintenant de Montréal-Trudeau en Bogota?
Oui, comme vous avez dit, nous espérons que nous pouvons avoir à Colombie chaque année beaucoup de Canadiens visiter notre pays. Et naturellement, non seulement par tourisme, par l'économique et par l'investissement du Canada à la Colombie.
Vous aviez un message à lancer à l'occasion de ce bel lancement de cette liaison Montréal-Bogota. Qu'est-ce que vous diriez?
J'invite les Canadiens à découvrir la Colombie.
Alors, merci beaucoup. Merci. Comment on dirait ça en espagnol?
Non, muchas gracias y quiero enviar un mensaje muy especial a todos para que visiten Colombia.
Pour plus d'informations?
Por supuesto, diríamos, en Colombia está esperando que muchos canadienses visiten nuestro país.
Alors, M. Carlos Morales, ambassadeur du Canada en Colombie, de la Colombie. Merci beaucoup de cette entrevue. On vous dit à la prochaine.
Merci, au contraire, merci à vous pour cette occasion.
Aquí traigo la guitarra, la gorra, 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 la gorra,
Et après cette musique typique de la Colombie, voilà qui termine cette émission sur votre fidèleauposte.com. J'espère que vous avez apprécié. Si avez des commentaires ou suggestions, il me fera plaisir de les recevoir au courriel suivant, André Bouchard 84, @gmail.com. Et je profite de l'occasion pour remercier notre collaborateur musical de la France, Pierre Daquin. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous dit à la prochaine.